Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, je retrouve Sandy Toubiana de l'agence Sandité. Avec ses 15 ans d'expérience dans l'univers du mariage, elle a énormément de choses à partager sur le métier de wedding planner. Bonne écoute! Salut Sandy!
Bonjour Benjamin!
Je suis ravi de t'avoir dans ce cinquième épisode du podcast Carnet de Noces, qui est mon premier épisode en tant que hôte. Et je suis ravi de t'avoir parce que toi, donc, tu es wedding planner depuis 15 ans. Hein, tu as monté ta société en 2004. Donc, tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire et à nous partager sur ce métier que tu pratiques depuis si longtemps. Et donc, la première question que j'ai à te poser, c'est si tu pouvais te présenter pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas.
Avec plaisir. Alors, comme tu l'as dit, je suis wedding planner. Ça fait de nombreuses années, c'est vrai maintenant, que je fais ce métier. C'est un métier que j'adore, évidemment, et on en parlera certainement plus tard. Il faut vraiment aimer ce métier pour pouvoir le faire sur du long terme. Moi, je peux vous raconter un petit peu d'où je viens à la base. Je viens de l'événementiel d'entreprise. Moi, j'étais au tout début de ma carrière chef de projet dans une agence événementielle corporate. Donc, j'organisais des soirées de gala, des séminaires, des lancements de produits. J'ai travaillé après un petit peu dans le monde de la finance où je gérais toujours la partie événementielle. J'organisais des grands prix, meilleur prix de l'analyse financière, par exemple. Voilà, un milieu un petit peu plus austère que celui des mariages, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai toujours évolué dans le monde de l'événementiel. Et depuis maintenant plusieurs années, je suis wedding planner. Mais pour moi, c'est de l'événementiel pour les particuliers, pour les privés. Voilà. Quoi te dire d'autre? Je suis aussi maman, j'ai 3 enfants. J'habite Paris et je viens du sud de la France à l'origine. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a fait justement plonger dans l'univers du mariage?
Alors, pour la petite histoire, d'abord, je connaissais ce métier depuis longtemps, même il y a plus de 15 ans, je savais que ce métier existait aux États-Unis. Le métier de wedding planner. Maintenant, des organisateurs de réception, ça a toujours existé, hein, ça existe depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau, mais vraiment calqué sur le modèle américain. À l'époque, ça n'existait quasiment pas en France, et je savais que c'était quelque chose qui pouvait éventuellement me plaire. Pour la petite histoire, moi, quand j'étais chef de projet junior dans l'agence événementielle dans laquelle j'ai commencé à travailler, la directrice de l'agence, un jour, me dit « Écoute, Sandy, regarde, j'ai la fille de ma meilleure amie qui se marie, elle m'a demandé de l'aide sur ce mariage. Franchement, j'ai pas trop envie de m'en occuper. Est-ce que ça te dirait de le faire ?» Et en fait, ça a été mon premier mariage organisé et l'expérience m'a beaucoup plu. Une fois que je suis sortie de l'événementiel corporate, j'ai un petit peu regardé le marché en France. À l'époque, il y avait 3 wedding planners sur toute la France.
Ça existe encore d'ailleurs ?
Alors, je pense qu'il doit y avoir celle pour laquelle après moi je suis allée travailler, parce que j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 3 ans, elle n'existe plus, non. Elle n'existe plus depuis quelques années déjà, elle a complètement tourné la page et elle est passée complètement à autre chose. Les autres agences, je ne suis pas certaine non plus, je pense qu'il y en a une qui n'existe plus non plus et une autre qui est plus à l'international mais qui ne vit même plus en France, je crois.
Ok, donc si je comprends bien, tu travaillais dans l'événementiel en tant que salarié. Ensuite, on t'a demandé d'organiser un mariage, mais est-ce qu'à cette époque-là, tu avais déjà ton entreprise ? Et si oui, est-ce que tu as tout de suite commencé par organiser des mariages ou est-ce que tu as démarré par des événements d'entreprise comme tu faisais avant en tant que salarié?
Non. Alors, moi, quand je me suis lancée dans le wedding planning, à proprement dit, j'ai commencé en travaillant pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'une fois que je suis sortie de mon poste de chef de projet en agence événementielle, je suis partie travailler pour une des wedding planners françaises qui avait monté sa boîte peut-être 1 an ou 2 ans avant. Et j'ai travaillé avec elle, mais j'étais son employée, hein. Je travaillais pour elle pendant 3 ans. Et ensuite, après, il y a toute une évolution, mais j'ai toujours grandi dans ce milieu-là, en fait. Après cette expérience-là, j'ai monté une première agence avec une autre personne avec qui je me suis
Et
associée.
c'était en quelle année?
Alors là, je te parle de, écoute, c'était en 2000, quand j'ai quitté Pièce Montée, c'était en 2006, 2007. Pardon, et je me suis associée très vite avec une autre personne quelques mois après, et là c'était en 2007.
Ok.
Voilà, octobre 2007, je peux même te donner le mois. Voilà, donc tout ça pour te dire que oui, pour continuer dans les présentations, j'ai travaillé après, donc là j'étais associée, donc j'ai monté une autre structure avec une autre personne pendant plusieurs années aussi, et depuis 2000, fin 2013, je suis sous ma propre enseigne, je me suis séparée de cette associée, je suis sur ma propre enseigne Sandité. Voilà.
Ok, et donc ton premier mariage en tant que chef d'entreprise, c'était dans ta première boîte quand tu étais associé. Et tu te rappelles de ton premier mariage?
Alors, je me rappelle très bien de mon premier mariage en tant qu'associée. C'était un mariage en Corse. Donc, il y avait quand même déjà premier mariage. Donc, tu rentres direct dans le bain et tu te dis, OK, c'est déjà pas très proche, c'est déjà en région. Voilà, donc c'était hyper bien, hyper intéressant. C'était pas facile parce qu'il y avait quand même pas mal de choses de contraintes, hein, le fait que ce soit à distance. Et puis, on était à une époque où c'était pas si simple de communiquer non plus, hein, et même il y avait le téléphone, il y avait Internet, tout ce que tu veux et tout, mais c'était pas aussi rapide, c'était pas aussi facile. Et donc, ce premier mariage s'est très bien passé, mais il a été quand même difficile à organiser. Et il a été difficile aussi le jour du mariage, un petit peu, parce que. Pas parce que c'était la Corse, que c'était sur une plage, que 2 heures avant il a plu, donc pas de chance. Donc voilà, donc premier mariage qui te met direct dans le bain, et là tu comprends très bien tout ce que tu dois affronter en fait dans ce métier, et surtout tu sais où aller chercher les solutions, et en fait ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend avec de l'expérience, mais ça s'apprend aussi.
Ok, c'est vrai que ça t'a mis directement dans le bain. Ça t'a pas fait peur, du coup, quand tu as vu ce premier mariage et que tu t'es dit, waouh, ça y est, c'est en Corse, il y a plein d'aléas déjà qui me tombent dessus.
Alors non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que quand on vient de l'événementiel pur et dur, finalement, c'est quelque chose que tu as, que tu intègres un petit peu dans ton ADN, tu vois. Donc, savoir se débrouiller, savoir trouver des solutions, ça, j'ai toujours été comme ça. Ça fait partie de ma personnalité, même plus jeune, même beaucoup plus jeune, j'ai toujours été comme ça. Donc déjà, ça me pose pas trop de problème. Je sais où est-ce qu'il faut. Si tu veux, j'arrive à me concentrer et à me dire, OK, on va trouver des solutions, parce que sinon, le temps passe, et puis sinon, le truc est catastrophique, donc, et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc voilà. Et quand tu fais tes classes dans l'événementiel pur et dur, je t'assure qu'après, sur ce type de projet, c'est stressant, je ne le cache pas, mais quelque part, j'avais déjà acquis quand même une toute petite expérience, mais j'avais un petit peu de terrain déjà.
Ça paraît simple, quoi.
Non, c'est pas simple. Mais maintenant, je te le dis 15 ans après, hein. Sur le moment, je pense qu'à un moment donné, même, je crois que j'avais les larmes qui commençaient à monter, parce que sur ce mariage-là, typiquement, c'était en été. Je te dis, 2 heures avant, il a plu, mais quand on est arrivé sur la plage, rien n'était prêt, et que je me suis dit, attends, comment on va faire, quoi? Comment on va faire? Les invités arrivent dans 3 heures. Bon, voilà. Donc, si tu veux, non,
C'est
non.
surtout que maintenant, avec tes 15 ans d'expérience, quand tu te rappelles de ça, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que j'avais fait en fait?
Bah, en fait, si tu veux, c'était un super souvenir finalement. Moi, j'ai trouvé ça.
Non, mais je parle surtout en termes d'organisation. Enfin, j'imagine que maintenant tu fais plus du tout les choses de la même façon par rapport à comment tu les faisais dans tes débuts.
Évidemment.
C'est d'ailleurs aussi là-dessus que je voulais qu'on revienne, c'était de savoir en fait, parce que toi, du coup, bon, tu faisais partie des premiers wedding planners en France, et tu as dû voir comme ça le marché qui a bien évolué. Qu'est-ce qui a changé en fait, hein, dans l'organisation d'un mariage entre le premier là dont tu m'as parlé et ceux que tu peux organiser maintenant?
Alors, déjà, c'est la clientèle. Moi, quand j'ai commencé ce travail, le métier de wedding planner chez les Français n'était absolument pas connu, d'accord ? Aussi bien chez les futurs mariés que chez les professionnels. C'est-à-dire que quand on appelait des lieux ou quand on appelait des traiteurs, qu'on se présentait en tant que wedding planner, alors déjà, on évitait un peu le terme parce que parce que personne ne comprenait, enfin, non pas qu'ils ne comprenaient pas l'anglais, juste qu'ils ne comprenaient pas qui on était, donc on disait organisateur de mariage, on se présentait comme ça, et puis moi, souvent, au début, on me disait, mais de toute façon, à quoi vous servez, quoi, à quoi ça sert, aussi bien, alors je te parle plus côté professionnel, hein, des prestataires, et si tu veux, c'était à chaque fois, il fallait se justifier, expliquer quel était l'intérêt de notre fonction, pourquoi on était là. Ça, c'était dans le cas où on avait bien sûr des clients et qui étaient pour la plupart des clients étrangers parce que eux, dans leur pays, c'est un métier qui existe depuis toujours et que c'est un réflexe quand tu es américain ou anglais d'appeler ta wedding planner le jour où on t'a demandé en mariage, quoi, tu vois. Donc c'est vrai qu'en France, ça a été un petit peu compliqué au début, au démarrage, avec surtout le côté professionnel. Puis moi, je rigolais parce que quand je raccrochais, je me disais tout le temps, bon, je me suis justifiée, mais j'espère qu'un jour ou l'autre, ils comprendront bien à quoi on sert. Aujourd'hui, c'est clair que ça n'a plus du tout, c'est plus du tout le même rapport. Ça a complètement changé. C'est carrément impressionnant quand je repense aux conversations complètement lunaires que j'avais avec certains prestataires, à leur expliquer que oui, j'étais organisatrice de mariage, que j'étais mandatée par des clients pour organiser leur réception. Tu vois, devoir se justifier comme ça, aujourd'hui, c'est fini, ça n'existe plus. Et tant mieux. Et tant mieux pour celles qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est quelque chose qu'elles n'auront plus besoin de faire du tout, je pense. Et puis après, la grosse différence aussi qui s'est passée dans l'évolution, c'est que, comme je te le disais, ma clientèle était étrangère parce que c'est un métier qui existait depuis longtemps dans leur pays. Il y a eu après un gros boom un gros coup de projecteur sur notre métier. Et du coup, il y a des Français qui ont commencé à s'y intéresser, à se dire, tiens, c'est pas mal. Ça va aussi avec une évolution de l'âge des mariés, avec leur carrière professionnelle. Tu vois, aujourd'hui, les gens qui font appel à une wedding planner, c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément le temps d'organiser leur propre mariage et qui font appel à ce service pour pouvoir le faire aussi très bien.
Oui, c'est ça aussi. Ouais. Je pense qu'il y a l'évolution de la société. Il y a les femmes aussi qui travaillent de plus en plus avec des postes, je pense, qui sont de plus en plus à responsabilité. Est-ce que tu as identifié, parce que tu as dit qu'à un moment donné, il y avait un gros coup de projecteur sur la profession de wedding planner. Est-ce que ça s'est fait progressivement ou est-ce qu'il y a eu quelques événements ou des choses qui ont fait que le métier a été plus mis en avant, selon toi ?
Ben, disons qu'en fait, c'est un métier qui peut... L'univers fait rêver. Donc, forcément, les médias s'y sont un petit peu intéressés. Je te parle surtout à la télévision. Hein. C'était surtout à la télévision que ça a fait. Il y a eu pas mal de choses de reportages sur le métier. Je te cache pas que je trouve que l'image qui était véhiculée n'était pas souvent la meilleure. Mais bon.
Dans quel sens ?
Eh ben, si tu veux, quand on connaît bien ce métier, je te parle de ça, de ce qui se passait avant. Hein, je trouvais que l'aspect, comment dire, un peu superficiel était surtout mis en avant, alors que c'est pas du tout ça. Nous, on a un vrai métier, c'est un vrai boulot, il y a une vraie méthodologie. On est vraiment des chefs de projet sur un mariage, sur un événement. Donc voilà, sur l'image qui était véhiculée à l'époque n'était pas forcément tout le temps bonne. En attendant, ça a quand même servi dans le sens où les gens ont découvert notre profession et se sont dit, tiens, ça peut être pas mal. Et il y a une évolution, comme tu dis très justement, de la société aussi, où on est dans une société où on fait de plus en plus appel aux services de manière plus générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas prendre un coach pour faire ton sport, un nutritionniste pour mincir, un architecte d'intérieur pour décorer ta maison. Tu fais appel à ce genre de service, tu vois. Ça, c'est vraiment, je pense, un héritage de la culture anglo-saxon et américaine, parce que c'est des choses qui, en France, n'étaient pas forcément automatiques. Aujourd'hui, on fait beaucoup appel à ce type de service. Donc, pourquoi pas passer par quelqu'un pour organiser son mariage? Ça va ensemble, tu vois, ça va un petit peu dans ce...
Je trouve que ça bouge, c'est vrai, même au niveau des entrepreneurs, où tous les entrepreneurs aux États-Unis passe par des coachs. En France, je pense que ça reste quand même encore assez limité. Et puis je pense que tu me le confirmeras aussi, et que quand il faut organiser son mariage, j'imagine que les demandes qui viennent de l'étranger sont peut-être différentes de celles qui viennent de couples français. Parce que je ne sais pas toi, mais toi, j'ai l'impression que dans l'inconscient, beaucoup de gens se demandent encore ce que fait un wedding planner et à quoi ça sert, justement. Ce que tu disais tout à l'heure, je pense que les mentalités, elles évoluent, mais on n'en est encore qu'au début. Non, qu'est-ce que tu en penses?
Ben non, je crois pas.
c'est bien, c'est bien.
Non, je crois pas. Non, d'abord, nous, quand on... oui, forcément, il y a certaines personnes qui comprennent pas notre valeur ajoutée, mais elles le comprendront peut-être jamais, tu vois. Mais je trouve que non, au contraire, oui, alors venant des étrangers, la demande... Non, franchement, justement, je trouve que ça s'est vachement lissé à ce niveau-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, les gens qui m'appellent, pour la plupart, sont des Français aussi.
D'ailleurs, c'est quoi la proportion entre tes débuts et puis maintenant? Bon, tu as dit qu'au début, c'était 100% d'étrangers, à ce que j'ai compris. Mmh. Et maintenant, quelle est la proportion des demandes que tu reçois entre les couples français et les couples étrangers?
Alors, moi, actuellement, je ne suis plus sur une clientèle française. Bizarrement, ça a complètement évolué dans ce sens-là. On va dire que la proportion, pour te donner une idée, on va dire que ça doit être 60% de français et 40% d'étrangers.
Et c'est à chaque fois des étrangers qui veulent se marier en France? Parce que j'ai vu que tu organisais aussi des mariages à l'étranger.
Alors, mariage à l'étranger, c'est plus pour une clientèle française. C'est beaucoup plus facile. Voilà, moi, je ne sais pas faire après les étrangers qu'on marierait à l'étranger. Pourquoi pas? Mais non, moi, je n'ai jamais eu ce type de demande et je ne suis pas positionnée là-dessus. J'ai en étranger, je te compte aussi les expats, hein, des gens qui vivent à l'étranger mais qui sont d'origine française. C'est plus pour un mariage en France, en France large, hein, que ça va du nord au sud, d'est en ouest, en passant par la Corse. Voilà.
J'ai vu que tu te positionnais plus sur le haut de gamme. Est-ce que ça, c'est un positionnement qui a évolué aussi avec le temps? Ou est-ce que tu t'es toujours positionné sur ce secteur de mariage et de réception haut de gamme?
Alors, oui, par la force des choses, parce que si tu suis l'évolution au démarrage, les gens qui faisaient appel à une wedding planner avaient aussi le budget pour faire appel à une wedding planner. Donc, si tu veux, ça a tout de suite marqué la gamme des prestations. Quand j'ai commencé ce métier, on était déjà sur un positionnement quand même assez haut de gamme, pour pas te cacher. Et ensuite, avec le temps, c'est un positionnement que j'ai gardé, que j'ai continué à avoir. Forcément, en commençant par ce niveau de gamme, on continue après pour aller encore un peu plus haut et toujours un peu plus haut, sans jamais essayer de redescendre. Voilà.
Et qu'est-ce qui qualifie justement pour toi un mariage haut de gamme? Parce que c'est vrai que haut de gamme, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils font du haut de gamme. Après, j'ai aussi l'impression que pour réussir et pour perdurer, c'est mieux de faire du haut de gamme parce que forcément, tu as peut-être des budgets qui sont supérieurs. Donc du coup, des prestations que tu vas pouvoir vendre plus cher. Est-ce que pour toi, justement, le fait de faire du haut de gamme, ça va te permettre de mieux réussir, entre guillemets. Est-ce que pour toi, il y a quand même de la place en tant que wedding planner sur des mariages un peu plus, alors j'ai pas envie de dire bas de gamme parce que c'est pas le cas, mais des mariages plus entre guillemets, un peu plus classiques, quoi, avec des budgets qui sont ceux de monsieur et madame tout le monde.
Alors, pour répondre sur la définition du haut de gamme, selon moi, oui, forcément, et c'est pas du tout un tabou hein, dans notre métier, on parle budget, ça c'est clair.
À partir de quel budget, alors du coup, si tu allais être concret, à partir de quel budget tu
considères que c'est haut de gamme ? Toujours la question piège, parce que ça veut rien dire. Si je te donne un budget, derrière, il faut expliquer ce qu'il y a. Et honnêtement, je pense qu'on n'a pas forcément le temps de développer.
Alors plus un budget par invité, dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que oui,
parce que c'est pas que dans le budget qu'on retrouve le haut de gamme non plus. Tu vois, tu peux avoir 30 personnes sur un mariage et faire un mariage haut de gamme et sans forcément être dans un budget complètement, complètement délirant. Donc, moi, je le retrouve aussi dans l'attention, dans l'optimisation totale du budget et de l'enveloppe budgétaire qu'on fait pour nos clients, c'est-à-dire savoir aussi bien dépenser les choses pour que ce soit beau aussi et pour que ça soit aussi haut de gamme, c'est-à-dire c'est dans les prestations. Alors oui, bien sûr, ce sont des prestations qui coûteront plus cher, mais que ce soit dans le service, que ce soit dans la décoration, dans l'optimisation totale du budget, dans l'optimisation du lieu aussi, tu vois, de savoir en tirer ce qu'il y a de mieux dans chacun des postes du mariage pour pouvoir le rendre beau, pour pouvoir rentrer dans un maximum de détails et faire quelque chose de beau quoi, et de chouette, tu vois.
Donc tu veux dire qu'en tant que wedding planner aussi, la grosse valeur ajoutée que tu vas pouvoir amener, c'est de tout optimiser, que ce soit le lieu, la déco, pour que d'un mariage qui aurait pu être à la base assez normal entre guillemets, devienne quelque chose de beaucoup plus grandiose.
Exactement. Je pense que ça c'est la valeur ajoutée aussi d'une wedding planner, moi je pense. C'est-à-dire les gens viennent avec un budget. Alors après chacune selon son positionnement, soit elles le prennent, soit elles le prennent pas. Moi il y a des budgets que je ne prends plus parce que je sais plus faire, je sais pas faire en fait tout simplement. Et je pense qu'ils seront pas contents avec moi, donc c'est pas la peine, tu vois. Si c'est pour leur dire dans 3 mois, écoutez, je suis désolée, va falloir ajouter tant, ils seront pas contents. C'est un métier tellement basé sur la confiance au démarrage. Quand on est on rencontre des clients potentiels, on se base vachement sur la confiance. Donc là-dessus, c'est hyper important de jamais perdre cette confiance-là, qui est mutuelle, évidemment. Mais je me rappelle plus ta question, excuse-moi.
Non, je parlais, tu sais, des optimisations que tu mettais en avant. Et justement, j'ai envie de revenir là-dessus, parce que ça m'intéresse. Ce serait, par exemple, si tu avais 3 astuces ou 3 choses que toi, tu mets forcément en place. Je parle, ça peut être au niveau du lieu, au niveau de la déco, des choses assez simples à mettre en place, mais qui peuvent transformer l'ambiance d'un mariage. Est-ce que tu as des choses comme ça qui te sautent aux yeux et par exemple que tu t'es mis à faire avec l'expérience et qu'on pourrait justement conseiller à nos auditrices wedding planner et auditeurs.
Alors, oui, si tu veux, sur un lieu, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours le truc qui semble évident, c'est-à-dire se dire, la cérémonie, elle est là, le cocktail, il est là, le dîner va se passer là, et la danse ici. D'ailleurs, les gens qui te font visiter les lieux te donnent aussi ces indications. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de trouver justement l'inverse, c'est-à-dire essayer de bouger les lignes en se disant pourquoi la cérémonie serait là alors qu'elle serait très 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 bien là, et ce qui change en fait, et ce qui va changer d'un mariage à un autre. Ça va changer, c'est-à-dire que le mariage que nous on va faire, et finalement sur 10 mariages, ce sera le seul qui aura mis la cérémonie là, et du coup les clients, bien sûr il faut que ça rentre, il faut que ça marche, il faut que ce soit beau, mais voilà, si ça me saute aux yeux, franchement, j'y vais, quoi. Et je propose, et souvent, c'est suivi, forcément. Il y a même parfois des lieux qui m'ont dit, on n'avait jamais fait dans ce sens-là, mais oui, évidemment, quoi. Évidemment que c'est une bonne idée, évidemment, on n'y avait pas pensé. En fait, on n'avait jamais osé le faire, ou on n'avait jamais eu la demande. Voilà, déjà, essayer de voir comment on peut aller un petit peu, en bougeant un petit peu les lignes quand on arrive dans un lieu, et essayer de faire quelque chose d'un petit peu original, quoi. Après, l'optimisation d'un espace, évidemment la déco, ça c'est sûr, mais une chose qui est très importante, c'est la mise en lumière aussi. La mise en lumière des espaces est essentielle. pour mettre en valeur le lieu qu'ont choisi nos clients, pour le rendre encore plus beau et encore plus esthétique. Ça c'est important. Voilà, ça pourrait être deux conseils que je pourrais donner. C'est déjà essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Et puis même, ça peut se retrouver ailleurs aussi. Ça peut se retrouver aussi dans le déroulé du mariage. On n'est pas obligé tout le temps de dîner puis danser après. Peut-être qu'on peut danser entre les plats. Peut-être qu'on peut danser même dès le cocktail. Voilà. Après, ça dépend aussi beaucoup des clients. Hein, ça, c'est à tester avec ses clients. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie et qui sont très classiques. Dans ces cas-là, on s'adapte.
T'as pas fait démarrer un plat par la pièce montée quand même.
Non, quand même, faut pas exagérer, on va pas aller juste. Il y a des codes quand même dans le mariage qu'on n'a pas le droit de bouger. Mais, juste pour dire que parfois, essayons de rendre le truc peut-être un petit peu plus original parce que c'est aussi notre valeur ajoutée. Mais ça dépend beaucoup.
Sortir du cadre, quoi, en quelque sorte.
Essayer de sortir un peu du cadre.
Essayer de faire différent.
Seulement si on l'a senti chez nos clients.
Si on sent, oui, et puis peut-être que tu as l'œil maintenant pour voir ces choses-là que tu n'avais pas au début. Ça, j'imagine que ça vient avec le temps, avec l'expérience. Mmh. Et puis tu as peut-être des lieux, non ? Il n'y a pas des lieux, toi, que tu recommandes et dans lesquels tu fais beaucoup de mariages ?
Non, moi je travaille partout où mes clients ont envie, on fait du sur mesure. Nous, on organise des mariages qui sont sur mesure. Donc oui, évidemment, je suis amenée à travailler plusieurs fois dans un château, dans une salle, dans un hôtel, évidemment. Mais étant donné qu'on fait du sur-mesure, on s'adapte, on se colle au maximum aux souhaits de nos clients. Et pour chaque mariage, on fait une recherche spécifique de lieu, parce que c'est la première pierre à l'édifice, hein, ça c'est sûr, pour chacun de nos clients. Donc, même s'il y a des automatismes, évidemment, moi, quand ils me parlent aujourd'hui, je les projette très facilement quelque part en me disant « c'est là qu'ils vont aller, c'est sûr que c'est là qu'ils doivent aller ». Souvent, je me trompe pas et c'est là qu'ils finissent, mais, mais voilà.
J'aimerais revenir sur l'évolution du marché, sachant que, comme on l'a dit, toi, t'as démarré très, très tôt. Il y a eu aussi pas mal de choses, je pense, qui ont changé avec, par exemple, l'arrivée des réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux qu'on connaît, hein, comme Insta, Pinterest, etc. Comment toi, tu as géré ça ? Parce qu'en plus, j'ai vu que tu n'étais pas si présente sur les réseaux sociaux, même si tu as des profils un peu sur toutes les plateformes, mais je n'ai pas l'impression que tu sois très, très active. Tu me contrediras, hein, si je me trompe. Enfin, beaucoup moins active que certaines. Est-ce que c'est quelque chose que sur lequel tu t'es mis assez tardivement, ou est-ce que c'est un choix ? Est-ce que tu n'en as pas forcément besoin à l'heure actuelle pour ton activité ? Comment est-ce que tu as vu l'arrivée des réseaux sociaux sur le marché de l'organisation de mariage ?
Alors, c'est un vaste sujet. Ça pourrait faire office d'un autre podcast, je pense. Moi, j'en ai pas eu besoin, en fait. J'ai pas eu tellement besoin des réseaux sociaux. Et même aujourd'hui encore, je publie. Je me trouve pas complètement inactive du tout, hein, non plus. Je publie ce que j'ai envie de publier, ce qui montre un petit peu notre activité. Voilà, c'est, pour moi, c'est une vitrine supplémentaire. Mais si tu veux, je suis arrivée peut-être un petit peu plus tardivement que certaines. J'ai du mal encore à comprendre cette notion de nombre de followers égale qualité. C'est complètement faux. Moi, je vois dans les statistiques quand même, parce que c'est quelque chose que je maîtrise un petit peu quand même. Je vois que j'ai une très, très belle communauté, que je suis très bien suivie, que j'ai des gens qui me suivent, que voilà, il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un salon au Lutetia, j'ai publié trois photos du Lutetia. Il y a des gens et des clients potentiels qui sont venus pour me rencontrer. Donc, je me dis, quelque part, c'est que j'ai quand même une clientèle, enfin, une communauté, on va dire, fidèle derrière, même si je ne suis pas à 20 000 followers, tu vois.
Ah oui, non, mais c'est sûr. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Le nombre de followers, ça a très peu d'importance. Ce sur quoi je voulais en venir aussi, c'est que je pense que les gens, maintenant, sont plus dans la préparation. Ils viennent te voir peut-être avec beaucoup plus d'éléments. Non, par rapport à ces réseaux sociaux où ils vont regarder ce qui se fait, ils vont sur Pinterest, ils se font des moodboards, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as vu changer avec le temps ?
Énorme.
Avec des clients qui sont beaucoup plus matures, ils savent ce qu'ils veulent peut-être beaucoup plus qu'avant et ont peut-être moins besoin d'être guidés. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça dépend des clients encore aujourd'hui. Moi, j'ai des clients qui ont quand même vachement besoin d'être guidés. Mais c'est vrai que ça a énormément changé. Et ça, c'est l'aspect. Alors, c'est un aspect très positif et il y a un petit côté aussi, on va dire, qu'il est un peu moins. C'est super quand les filles arrivent ou les mariées, parce que je te dis les filles, c'est souvent les mariées qui s'occupent de la déco, hein, les filles, avec des illustrations, avec elles montrent les robes, je veux ça, je veux ci, je veux ces fleurs et tout. Maintenant, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des très, très, très belles choses. Souvent, ce qu'on retient le plus, c'est ce qu'il y a de plus beau, d'accord? Et ça peut créer dans certains cas des frustrations parce que ben, des fois, il n'y a pas le budget qui suit forcément derrière. Donc à nous aussi de tempérer et de dire, d'être très clair dès le départ, d'expliquer. Et moi, c'est là-dessus, ça me prend du temps et je le fais, je ne passe pas à côté. C'est d'expliquer aux clients, oui, ce que vous voulez, c'est magnifique. Oui, on pourra s'en rapprocher, mais peut-être pas forcément égaler cette sublime photo avec des cascades de fleurs partout. Et voilà, ça, c'est quand on est dans des décors très grandioses. Bien sûr, j'ai de la chance d'avoir des clients qui peuvent se le permettre, donc souvent on arrive à des résultats qui sont proches de la photo qui a été montrée. Mais voilà, donc ça, c'est un avantage dans le sens où les personnes et les futurs mariés viennent avec des idées qui ont déjà été un petit peu, qui sont déjà arrivées un petit peu à maturité. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça crée trop de frustration non plus. Il ne faut pas que... Voilà. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux.
Je comprends. Et au niveau de la concurrence, entre guillemets, hein, de tes consoeurs, parce que j'imagine que tu en as de plus en plus avec le temps, toi, je sais que tu m'as dit que tu n'avais pas besoin des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu fais justement pour trouver tes clients à l'heure où il y a quand même plus de concurrence que lorsque tu as démarré, forcément? Est-ce que c'est pareil au niveau des comportements? Est-ce que les gens viennent directement vers toi? Est-ce que tu as de plus en plus de couples qui font des demandes à droite à gauche et qui vont comme ça faire leur shopping entre différents wedding planners? Est-ce que ça aussi ça a changé dans la manière dont tu vas te vendre auprès de tes futurs clients?
Alors, les réseaux sociaux, non, j'en ai besoin hein, quand même. Hein, j'y suis et j'aime bien ça. Et c'est quand même quelque chose qui m'apporte quand même des clients. Hein. Donc, j'ai quand même signé des gens qui m'ont connue sur Instagram et j'étais hyper contente parce que je me suis dit, bon, bah, finalement, ça marche, quoi. C'est pas juste une vitrine, finalement, voilà, ça marche bien. J'ai différents réseaux, j'ai quand même, voilà, il y a un bouche à oreille qui se fait aussi, vu les années d'expérience. Et ça, c'est bien, parce que souvent, ceux qui arrivent, parce que j'ai été recommandée par quelqu'un d'autre, certains prescripteurs aussi, tu vois, c'est déjà bien avancé dans la concrétisation du contrat que je pourrais avoir avec eux. Après, en termes de concurrence, pour ceux qui hésitent, très franchement, moi, quand on me dit « je vais aller voir une autre wedding planner », parce que les gens le disent hein, en général, et tant mieux, mais je leur conseille de le faire aussi s'ils ne sont pas sûrs de leur choix. Ou alors, parfois, d'aller voir une autre wedding planner, ça permet aussi de se rassurer dans son choix. Donc, moi, quand on me dit « j'ai quand même d'autres rendez-vous », je leur dis « mais bien sûr, allez-y ». Allez-y, parce que moi, quand je vous ferai visiter un lieu, je ne vous en ferai pas visiter qu'un seul. Je vous en ferai visiter deux ou trois. Et c'est justement ces deux ou trois que vous verrez en plus qui vous permettront de vous décider. Voilà.
C'est ce que tu mets en avant d'ailleurs, du coup, par rapport à tes offres. C'est le fait que tu vas leur présenter beaucoup de prestataires, beaucoup de possibilités, qu'ils auront le choix, en quelque sorte.
Alors, sur le lieu, c'est très particulier. C'est vraiment un petit peu à part. Sur les autres prestations, pas forcément. Mes clients me faisant confiance à 99,9% quand je leur dis voilà, ça, c'est bien. Faites-moi confiance, ça correspond à ce que je vous ai dit, ça correspond à ce que vous souhaitez, ça correspond à votre budget. Très franchement, je n'ai pas besoin de présenter 36 000 photographes, tu vois. Si maintenant, évidemment, ils rencontrent le prestataire, ils discutent, il y a un échange entre le client et le prestataire. Si par exemple, on va prendre l'exemple du photographe parce qu'il est assez parlant, si par exemple tu as Moi, je peux leur dire, c'est le meilleur photographe du monde, les photos sont sublimes, ça correspond à votre budget. Si au moment où ils rencontrent le photographe, le feeling ne passe pas, eh ben, on ira chercher un autre photographe, ça c'est certain, parce que c'est hyper important, tu vois. Donc, non, il y a toujours présentation du prestataire à mes clients, ça c'est obligatoire. Moi, je suis force de conseil, force de proposition, j'organise leur mariage, je suis là le jour J, mais le choix final leur appartiendra toujours.
Mais j'imagine qu'avec le temps, tu as dû te construire un gros réseau de prestataires. Est-ce que justement, avec l'expérience, tu arrives à tout de suite comprendre les besoins de tes clients et tu sais vers quel prestataire tu vas les orienter? Ce qui fait que toi, est-ce que maintenant les mariages, tu passes moins de temps à les organiser qu'avant grâce à ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu me confirmes ou non, d'ailleurs, même si, bon, tu m'as dit que tu faisais du sur-mesure, mais je sais aussi que, en tant que wedding planner, on est aussi chef d'entreprise, il y a une notion de rentabilité et il faut être productif. Est-ce que ça, c'est des choses aussi auxquelles tu fais attention? Est-ce que...
Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a le côté, est-ce que quand le client t'expose, c'est... ses désirs, ses souhaits, est-ce que tu arrives à projeter des prestataires? Oui, en fait, oui, mais c'est plutôt un style. C'est plutôt un style que j'arrive très bien à comprendre maintenant au premier rendez-vous. Après, je vais essayer de trouver, j'aime bien travailler avec... tous les ans avec de nouvelles personnes aussi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que ça permet de voir d'autres gens, ça permet aussi d'avoir un nouveau regard sur la profession, ça permet d'avoir souvent, par exemple dans la décoration, un nouveau style, une nouvelle approche. Donc tout ça, ça me plaît beaucoup moi personnellement et je pense que ça peut aussi faire évoluer aussi le métier, tu vois. Il faut être à la page. Il y a une mode dans les mariages aussi. Il y a une mode de style. Donc, chaque année, ou on va dire la mode, moi, je pense que c'est plutôt tous les 3-4 ans. Il y a une mode aussi. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de mariages beau, vintage, tout ça. Il y en a toujours, mais on y est un petit peu moins sur cette tendance, tu vois. Donc, sur les prestataires, oui, en tant que chef d'entreprise, bien sûr, il y a une rentabilité à avoir dans le temps qu'on passe. Mais très honnêtement, moi, j'adore ce métier et je travaille sans limite d'heure, sans limite de mail, sans limite de... Voilà, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, voilà, ma prestation, c'est sans limite d'heure, sans limite de rendez-vous, sans limite de visite. Voilà, on se voit et on s'appelle quand vous avez besoin, quand moi, j'ai besoin aussi de vous appeler.
Et du coup, là, la réflexion qui me vient en tête tout de suite, c'est que tu n'as jamais eu de clients qui ont profité de ça. Tu n'as pas eu des mauvais souvenirs avec des clients qui t'ont appelé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ou qui t'ont fait visiter 10-15 lieux et qui t'ont fait perdre beaucoup de temps.
Limite d'heure, ça ne veut pas dire à n'importe quelle heure. Limite d'heure, ça veut dire que je ne compte pas mes heures quand je travaille pour un client. Mais par contre, non, quand même. J'ai des gens quand même qui sont assez respectueux. Alors, ça m'est déjà arrivé, surtout avec WhatsApp et tout. Tu reçois un petit WhatsApp à 23h30 en te posant une question à laquelle tu pourrais complètement répondre le lendemain matin. Bah, très bien, j'attends le lendemain matin, quoi. Donc, tu vois, là-dessus aussi, il faut pas se laisser déborder, hein, faut faire attention. Voilà, ça, c'est un conseil aussi que je pourrais donner, c'est faire attention aussi. Mais honnêtement, les gens sont quand même très respectueux de notre travail et ça m'est arrivé peut-être 4 fois, 5 fois qu'on m'écrive à 23h30 un WhatsApp, un SMS en me demandant un truc auquel j'ai répondu le lendemain.
Ok. Et là, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la situation actuelle. Hein. On est le 20 novembre en ce moment, enfin, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, en 2020. Donc, en plein seconde vague Covid. Je voulais savoir, toi, de ton côté, quel est l'impact sur ton activité et surtout ce que tu fais pour justement aller de l'avant et faire en sorte de, entre guillemets, limiter les dégâts, quoi, au niveau de ton activité et pour faire en sorte de limiter la casse, quoi.
Alors, Franchement, période complètement inédite. Hein, quand c'est arrivé au mois de mars, on espérait tellement que ça n'aille pas plus loin que le mois de mai, enfin que le mois de mars même. Bon, il s'avère que ben, on a connu une année très 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 particulière, avec évidemment des reports, avec évidemment parfois des annulations. On a continué, moi je continue, j'ai quand même signé des contrats après le premier confinement pour 2021. Et du coup, je leur ai expliqué très clairement, c'est-à-dire que je suis très très transparente avec mes clients toujours. Toujours sur la même notion de confiance, hein, réciproque. Je leur ai expliqué que oui, probablement, peut-être, on ne sait pas, on va être confiné, peut-être que non, peut-être que ce sera terminé. En attendant, cette crise existe. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, pour moi, on peut continuer. Ils m'ont demandé conseil. Je leur ai dit, écoutez, on continue. Sachez que quoi qu'il en soit, je serai à vos côtés. S'il faut décaler, s'il faut annuler, s'il faut reporter, je serai à vos côtés par rapport à ça. Donc déjà, là, ça les rassure énormément. Ensuite, dans les nouveaux contrats d'aujourd'hui, la clause Covid, elle est incontournable. C'est-à-dire que c'est... moi, il n'y a pas un seul de mes clients qui signe un contrat aujourd'hui sans que j'ai relu cette clause et sans que, qu'elle soit passée, voilà, qu'elle soit écrite, tu vois.
Et tu peux m'en dire plus sur cette clause Covid ?
La clause Covid, ça dépend. Alors, il y a des prestataires qui la mettent automatiquement, qui la formulent de leur, selon leur, leur, à leur manière, hein, de toute façon. Mais ce qu'elle dit, c'est que en cas, par exemple, pour un lieu, là, on est en train d'en discuter justement, ils doivent changer leurs conditions générales de vente parce que je leur ai demandé. C'était, si tu veux, dans la clause, il y avait marqué 6 confinements nationaux. Maintenant, il s'avère que c'est un lieu qui est dans le sud de la France. Donc moi, j'ai juste fait rajouter 6 confinements national et local, parce qu'on a quand même vu que Paris pouvait être sous couvre-feu avec la région Aix-Marseille, mais pas le reste de la France, tu vois. Donc, bon, on essaye un petit peu de verrouiller un maximum de choses. On ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne le confinement, en ce qui concerne les restrictions administratives, quelles qu'elles soient, donc on essaie de lister au maximum nombre de personnes assises à table. Quand même, au mois d'octobre, on nous a dit, ben non, c'est fini. On ne peut pas être plus de 6 à table. Vous imaginez bien, t'imagines bien qu'un mariage... tu peux plus le faire, quoi. Donc, voilà, ce genre de choses apparaissent quand même. On essaye de, voilà, sur les points qu'on a déjà vécu, puisque maintenant, on a déjà quand même une petite expérience de cette crise, sachant qu'elle n'est pas terminée. En tout cas, pour les événements de 2021, moi, j'essaye de faire rajouter ce genre de choses dans les contrats.
Et c'est pas compliqué aussi par rapport aux mariages qui devaient se passer en 2020, qui ont été repoussés sur 2021. Est-ce que tu te retrouves pas avec des week-ends où tu aurais pu faire un mariage, mais tu as déjà un contrat que tu as déjà signé avec un client que tu as justement déjà accompagné sur la prestation et qui va, entre guillemets, te bloquer une date? Ouais. En 2021, ça, oui. ça doit être chaud à gérer, j'imagine.
Alors oui et non, parce que finalement, les clients, quand ils sont venus me voir là en septembre, ou même au mois de juin, quand je leur ai dit, écoutez, 2021, je leur dis la vérité, je leur dis 2021 est une année très particulière, sera une année très particulière, j'ai déjà des reports. Maintenant, si vous avez une date, ça serait bien que vous en ayez plusieurs. Mais de toute façon, ça, je l'ai toujours fait. J'ai toujours dit, demandez aux gens qui me fassent une demande sur plusieurs dates, pas juste sur un seul week-end, parce que ça limite trop le champ des possibles. Et du coup, ben non, c'est passé sans problème, en fait, finalement.
Ok, donc toi maintenant, à chaque fois qu'un couple vient te voir, tu leur dis, ce serait bien que vous ayez plusieurs dates plutôt qu'une seule. Hein. Et est-ce que du coup, le conseil, ce serait pas d'aller voir son wedding planner avant même la demande en mariage, et avant, enfin, pas avant la demande en mariage, mais avant d'avoir bloqué la date?
Non, en fait, moi, les gens, quand ils viennent, mais même avant la crise, hein, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'ils me disaient, on veut se marier, je te dis n'importe quoi, le 20 juin. Ok, je leur disais, écoutez, le 20 juin, c'est une date un petit peu chargée, est-ce que vous avez d'autres dates de préférence? Et souvent, les gens te disent, bah, finalement, si, pourquoi pas le 3 juillet, pourquoi pas, tu vois, donc ça ouvre aussi les possibilités, mais ça, moi, je l'ai toujours fait, j'ai toujours demandé à avoir... au minimum 2-3 dates pour poser leur mariage, parce que si par exemple le lieu qui pourrait correspondre 100% à leurs attentes n'est pas dispo à la date initiale, et ben dans ces cas-là on pourra peut-être l'avoir à la date, à la deuxième date qui a été demandée, ouais, tu vois.
Et dans les lieux, toi, sur lesquels tu vas généralement, on est sur quel délai? Qu'est-ce que tu recommanderais à un couple qui envisage de se marier? Est-ce qu'il faut, parce qu'on a toujours entendu, il faut s'y prendre au moins un an à l'avance. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est encore plus que ça?
Oui, c'est bien un an à l'avance. Après, on a déjà organisé des mariages en 3 semaines, donc oui, c'est bien un an à l'avance, mais il n'y a pas forcément de règles. Hein. Voilà, après, ceux qui viennent 3 semaines avant l'été en disant on veut se marier cet été, ben, dans ces cas-là, ils n'ont pas beaucoup d'exigences, tu vois. Enfin, en tout cas, on leur dit écoutez, avec plaisir, mais en termes d'exigences, on peut peut-être éventuellement aussi prévoir un mariage la semaine, tu vois. Et souvent, c'est passé. Hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois, ça.
Des mariages en semaine?
Ouais. Ouais.
Et il y en a de plus en plus aussi. Est-ce que ça fait partie de tes prestations où tu sors du cadre, entre guillemets, où tu proposes, tiens, bah, mariez-vous un vendredi, pourquoi pas? Non, mais... Après, c'est vrai que ce serait peut-être la solution, hein, parce que c'est vrai que le vendredi, c'est pas...
Non, moi, j'ai déjà eu des mariages le mercredi, hein, en plein milieu de semaine. Hein. C'est une bonne alternative. Après, il faut qu'ils soient d'accord, hein, bien sûr. Mais ça, je te parle vraiment pour ceux qui viennent 3 semaines, 2 mois avant, en disant, ben, au mois de juillet, on aimerait bien se marier, alors qu'on est au mois de mai. Ben, là, du coup, il y a 4 week-ends dans un mois, tu vois, tout le monde voit à peu près les mêmes choses. C'est souvent les mois les plus chargés. Donc oui, ça, c'est une bonne alternative, le mariage en semaine. Après, pour ceux qui se marient et qui s'y prennent un an à l'avance, non, s'ils veulent un week-end, on part sur un week-end, évidemment.
Et comment tu fais quand on te demande comme ça, 3 semaines à l'avance, d'organiser un mariage? Au niveau de ton organisation, je crois que vous êtes deux, c'est ça, dans ton agence?
On est deux, ouais.
Et vous avez toujours été deux, ou t'as commencé toute seule, et puis tu t'es fait aider par la suite?
Je me suis toujours fait aider, je ne peux pas faire toute seule, après, toute seule. Après, c'est vrai que être une toute petite structure comme ça, ça a aussi ses avantages. Et moi, je conçois ça. Enfin, moi, je suis sur tous les mariages et sur toutes les organisations. Je ne vais absolument pas m'éloigner de ce que j'aime faire et de l'essence même de mon métier. Il suffit d'un bon chef d'orchestre, tu vois, pour un mariage. Ce n'est pas la peine d'avoir 3 chefs d'orchestre sur la même réception, ça ne sert à rien. Et même en termes de nombre de mariages par an et de nombre par week-end, on n'en prend qu'un, par exemple. J'en prends pas deux.
D'accord.
Donc on reste sur quelque chose d'encore et de toujours, hein, qui sera toujours comme ça, de plus. Voilà, je ne veux pas devenir une machine à mariage, quoi, collectionner les mariages, en faire 2-3 le week-end et déléguer ça, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi.
Pour être bon dans ce qu'on fait, que ce soit dans le métier d'organisation du mariage ou dans un autre, il faut constamment se former et se tenir à jour. Comment est-ce que tu fais, toi, justement?
Ah ben, pour être à jour de tout ce qui se fait, bah, il y a les réseaux sociaux. Hein, là, c'est le top, c'est une mine, hein, Pinterest, Instagram.
Il y a des comptes, justement, que tu recommanderais par rapport à ça? Des comptes que tu aimes suivre, qui sont en avance sur la tendance?
Ouais, alors, moi, je suis beaucoup les grandes wedding planners américains. J'adore.
Et t'as quelques noms pour que ce soit un peu plus concret?
Tout le monde les connaît, hein, Marc.
Ah, peut-être pas, justement.
Marc West, voilà, là, on est dans des segments, voilà, c'est hors sol, quoi, carrément. Mais ça, c'est beau, parce que ça te dit que, voilà, c'est possible. Et c'est hyper, hyper inspirant, tu vois. Après, pour se former au quotidien, c'est toujours... moi, je me forme beaucoup... par les rencontres, justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est de voir ce qui se fait à côté, d'être toujours à l'écoute, d'observer un petit peu ce qui se fait de nouveau. Et je trouve que parfois, tu te remets en question. Faut des fois sortir de sa zone de confort, essayer de se challenger un petit peu et en disant, tiens, pourquoi pas faire un podcast, par exemple, aujourd'hui, tu vois.
C'est une très bonne idée, c'est pas moi qui ira dire le contraire. Donc du coup, on va attaquer là sur le dernier segment avec les questions qu'on pose généralement à tous les invités. Et la première, ce serait de si demain tu devais revenir 15 ans en arrière et que tu devais te dire quelque chose, un conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais ?
Qu'est-ce que je me dirais ? Waouh, c'est dur comme question. Si je devais venir 15 ans en arrière, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas.
Si je la reformule, ça pourrait être par exemple si tu as peut-être fait des choses au cours de ta carrière, alors pas que tu regrettes, mais que tu ferais peut-être différemment maintenant si tu devais les refaire. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent en tête ?
Qu'est-ce que je referais ? Je pense que je referais peut-être plus de... Enfin, très franchement, hein, je te le dis, il y a 15 ans, peut-être que j'aurais aimé aller travailler outre-Atlantique, tu vois. Peut-être.
Pour te former, justement.
Pour former, peut-être pour y rester, je ne sais pas. Parce que je pense que aujourd'hui on fait de très beaux métiers, mais c'est vrai que aux États-Unis c'est quand même très très reconnu. Alors on y arrive, hein, tu vois, c'est bien et tant mieux, mais peut-être que je me dirais ça.
Pour aller un petit peu plus vite.
Ouais.
Ouais, ça va pas encore assez vite en France. Non, c'est vrai que ça bouge, hein, il faut le temps.
De ce que j'ai connu, moi, ça va beaucoup beaucoup plus vite. Hein. Il y a des filles qui explosent en 3 ans, hein, donc tu vois. Moi aussi j'ai eu cette chance, mais j'ai eu cette chance parce que c'était le début du métier. Aujourd'hui,
Y a toujours un avantage à faire partie des premiers, mais c'est aussi un risque. Hein. C'est pour ça tout à l'heure que je te disais que le marché il bouge, le niveau d'attente des consommateurs il bouge aussi. Et justement, si tu n'arrives pas à t'adapter, à suivre la vague et à même parfois changer toutes tes méthodes, le fait d'être le premier, parfois c'est plus un handicap. Plutôt qu'un avantage, mais bon, toi, c'est bien parce que justement, tu l'as dit, celle avec qui tu as démarré, il n'y en a plus beaucoup apparemment qui sont qui font encore cette activité, toi, tu es toujours là. Donc, c'est signe que tu t'es bien adapté, mais c'est vrai que maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec les réseaux sociaux, justement, c'est ça qui fait aussi que les carrières, elles peuvent exploser peut-être beaucoup plus rapidement encore qu'avant, avec aussi la vague qui fait que le métier est de plus en plus reconnu, donc... Ouais, ça c'est bien. Quel est l'outil pour toi qui est indispensable, dont tu te sers tous les jours dans la gestion de ton activité? Ça peut être une application, ça peut être un site, ça peut être quelque chose de physique, virtuel, peu importe.
Je me sers le plus mon ordinateur, ça c'est sûr.
Et sur ton ordinateur, justement.
Mon ordinateur, je travaille beaucoup sous Excel, moi. Voilà.
D'accord, toi c'est Excel. Ouais. Je pense à Daisy là, dans l'épisode 3 là, qui est sorti cette semaine, là, à l'heure où on enregistre, qui nous parlait beaucoup de Trello.
D'accord.
Et donc toi, du coup, ce serait plus Excel, c'est quoi ? C'est pour ta gestion
La gestion des dossiers, l'avancée de chaque dossier. J'aime bien mettre tout dans des tableaux, des lignes, tu vois.
D'accord. C'est des choses que tu partages aussi avec tes invités. Par exemple, avec Google, maintenant, on peut partager les tableaux.
Sur Google Drive, ouais, on peut.
Ouais, Google Drive.
C'est clair. Alors, je partage plus des galeries photos privées un peu sur le Drive, moi, avec mes clients et...
Pour les moodboards, pour les inspirations.
Exactement, pour les moodboards, pour les inspirations. On utilise aussi beaucoup Canva.
Canva, ouais.
Et voilà.
Et c'est des choses que... Je pense aux moodboards, c'est des choses que tu fais même avant de signer avec un client ou...
Non.
Ou tu ne proposes pas de thématique avant de...
Non, je ne propose pas de thématique avant. Ouais, pour si, voilà, mais en général, non, on commence à parler décoration après.
Quel est ton plus beau souvenir de mariage ?
Mon plus beau souvenir de mariage, mais en fait j'en ai plein. C'est sûr, c'est hyper bateau de dire ça, mais c'est vrai, j'ai plein, plein de très, très beaux souvenirs.
Ou une anecdote hein, particulière, je sais pas, hein, quelque chose qu'on t'ait demandé au cours d'un mariage,
Moi,
quelque chose d'assez étonnant.
où beaucoup aimé faire, c'est ou que j'aime beaucoup faire, c'est ce type de mariage où il y a énormément de montage en fait, où il y a beaucoup beaucoup de logistique. Moi, je suis une fille qui adore ça. En fait, la production de l'événement, j'adore ça. Où il y a beaucoup de logistique, beaucoup de montage, de structure, de lumière, d'électricité à amener, de chauffage à amener sur une tente qu'on va monter, en fait, qu'on va construire une salle éphémère. Voilà, ça m'a énormément plu. Voilà, j'adore ça. Hein, j'adore ce
C'est partir de zéro en quelque sorte, c'est de créer un
Et
lieu comme ça de toutes pièces en fait, c'est ça.
puis échanger avec tous ces corps de métier différents, que ce soit celui qui conduit le semi-remorque et qui apporte la tente, et tu sais que ben voilà, c'est le début, et le tapissier qui va venir mettre les décors, monter des lustres à 4 heures du matin, parce que sinon on sera trop à la bourre le lendemain. Voilà, ça j'adore quoi. Ça c'est de l'événementiel, c'est vraiment la partie événementielle que j'aime. Dans notre métier, c'est ça. Voilà, j'adore ça. Ça me fait hyper plaisir d'être sur ce genre de gros gros montage.
Et puis c'est peut-être ça aussi qui te fait sentir que tu as de l'impact, hein, en quelque sorte, c'est que tu pars de zéro, tu crées quelque chose de toute pièce. J'ai vu aussi que tu
La
avais fait des...
concrétisation de mois de travail, d'heures de travail. Et c'est vrai que moi, j'adore être le jour du mariage. J'adore ça, vraiment. Je me dis, bon, bah, enfin, ça y est, ils vont être contents. Ça y est, je pense que c'est si tout est bien ficelé en amont, si tout est bien et comme ça l'est en général, je pense, hein, il reste plus qu'à faire. C'est quelques heures. C'est-à-dire, un mariage, c'est quoi? Allez, 7 heures? 8 heures, tu vois, si on prend aller 12 heures toute la journée, mais mais c'est fou quoi. Et ça, c'est génial.
Et comment est-ce que tu te vois d'ici 5 ans? C'est quoi tes prochains objectifs?
Ben,
C'est quoi enfin, l'avenir que tu vois pour ta société?
continuer, je te disais, moi j'aimerais bien développer un petit peu le one-to-one parce que j'ai beaucoup beaucoup de demandes là-dessus, donc c'est quelque chose qui me plairait bien en plus de
Peut-être qu'il faudrait caler dans ton emploi du temps, assez
Ouais,
chargé, j'imagine.
exactement, mais ça me plairait bien parce que vraiment partager mon expérience, échanger avec des nouvelles personnes qui veulent se lancer, ça me plairait énormément. Je l'ai déjà fait et ça me plaît beaucoup, ça je le sais. Mais continuer toujours dans le métier hein, de wedding planner, toujours en restant planner. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas décoratrice, je ne suis pas DJ, je ne suis pas traiteur, je ne suis pas officiante de cérémonie, je suis vraiment organisatrice de mariage.
Bon, on va suivre ça de près.
Je
Où est-ce que les gens peuvent justement en savoir plus sur toi et te suivre
crois.
sur les réseaux?
Ils peuvent me trouver sur les réseaux, sur ma page Instagram, c'est sandité.weddings. Mon site internet aussi, c'est www.sandité-t.com.
Ça marche. Bon, en tout cas, j'étais ravi de t'avoir une nouvelle fois.
Merci beaucoup. En tout cas, Benjamin, c'était hyper agréable comme échange.
Merci à toi et puis bon, je suis au courant pour tes prochains événements, enfin pour tes prochains projets.
Avec grand plaisir, bon courage aussi au podcast Carnet de noces et puis merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui.
Merci à toi.
À
À
bientôt.
bientôt.
Au revoir.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.